Gala Placidia et un peu plus. Je devrais démarrer le Book of Kells,
Ah oui.
miniature irlandaise. Puis, on devrait avoir une séance sur le Beatus de Saint-Sever. Et puis, je pense, j'hésite pour terminer, peut-être les vitraux de Chartres pour changer un peu, pour quitter un peu les manuscrits, avant de reprendre quelques manuscrits, mais faire un écart vers les vitraux de Chartres. La tapisserie de Bayeux, je ne sais pas si. Parce qu'il y a tellement de choses que.
Ce
Donc, je
sera pour
vais.
l'année prochaine.
Voilà, alors l'année suivante, il y aurait ça. Sur les Beatus de Saint-Sever, il y a beaucoup. Donc, je pense qu'en 3 séances, je ferai à peu près ça. Mais aujourd'hui, je devrais démarrer quand même ces manuscrits irlandais. Et aujourd'hui, eh bien, je vais. Il est quasiment l'heure. Je vais donc reprendre là où j'en étais. Je vais faire un petit rappel rapide du contexte, en gros du propos de ce chapitre, parce que comme à chaque fois que je m'écarte, il faut de temps en temps revenir pour qu'on sache de quoi on parle tout de même. Vous avez vu, c'est compliqué, de toute façon l'histoire est compliquée, à chaque fois je prends des œuvres charnières, hein, vous avez vu, qui permettent de comprendre avant, pendant, après, de façon assez symptomatique. Et ce n'est pas forcément les plus belles œuvres, mais souvent qui sont effectivement à des moments de l'histoire et de l'art en articulation. Et là, juste rappelez-vous, l'histoire de Galla Placidia, c'est qu'on est effectivement dans l'Empire romain, c'est une impératrice, elle est chrétienne, mais on est en plus quand même à mi-chemin, c'est un truc tout bête, presque exactement, entre la christianisation de l'Empire Constantin, c'est à peu près 300, et on va dire l'affirmation définitive d'un empire chrétien vers 800. Et dans 800, d'ailleurs, on va y venir avec, pour référence, c'est tout simple, hein, ça, j'en reparlerai. À peu près l'an 800, c'est à la fois de sa chapelle, en gros, c'est Charlemagne, c'est la création de la basilique Saint-Marc à Venise, c'est enfin, la consécration, et c'est aussi la création de Saint-Jacques de Compostelle. Vous avez donc, en gros, on peut dire que vers 800, boum, l'Europe est christianisée de manière assez homogène. Donc, si vous voulez, entre tout ce qui est romain, pré-chrétien, chrétien un peu complexe, dans tout jusque 300, jusqu'à à peu près Galla Placidia, à 500 après notre ère, on a à peu près le mausolée de Galla Placidia. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer justement les évolutions artistiques avant, pendant et après Galla Placidia. Alors là, j'étais dans ce qu'on appelle le paléochristianisme. Juste un petit rappel, c'est au niveau des. Vous avez une idée, c'est horrible, parce que plus on lit, plus on se perd. Quand on regarde les cartes, par exemple, ça c'est juste des cartes, par exemple, de 500 après au 5e siècle. Alors attendez, ça zoome normalement. Bref. Là, vous voyez un petit peu la difficulté. Les Frisons, les Saxons, les Alamans, les Francs, je sais pas quoi, les Francs-Saliens, je sais pas qui c'est ça, les Gaulois, les Bretons d'Armorique, les Visigoths, les Ostrogoths, les Volques-Tectophages, Arréconiques, les Burgondes, bref, vous avez. Et à chaque fois, il faut quand même savoir que justement, au 5e siècle, on est théoriquement dans un empire romain chrétien, puisque depuis Constantin, mais Constantin c'est quand même assez loin, donc on peut imaginer un petit peu les difficultés et les dissensions, y compris religieuse, culturelle, artistique, etc. Hein? Là, voilà encore un peu la suite autour de Clovis, donc de Galla Placidia. Alors, Galla Placidia, c'est à l'est, au nord de l'Italie. Et vous voyez, je vous avais dit, c'est contemporain de Clovis et Clotilde, à peu près donc Soissons, etc. Donc on est là dans une sorte de délimitation, y compris dans le territoire, hein, de frontières, qui vont durer assez longtemps d'ailleurs, hein, de frontières entre un royaume germanico encore un petit peu complexe. Et jusqu'à d'ailleurs, c'est pas un hasard ensuite si Charlemagne ou plus tard l'Empire carolingien, hein, c'est-à-dire que là vous allez avoir une extension progressive vers l'est du Saint-Empire romain germanique, donc c'est aussi une conquête du territoire. Là vous avez Aquileia dont je vous ai parlé, hein, plus grande basilique chrétienne, Ravenne dont on va parler, où il y a Galla Placidia, donc on est vraiment dans la démarcation des frontières avec des espaces beaucoup plus complexes et ouverts. Donc. La christianisation d'une part, mais y compris la stabilisation avec les invasions, etc. Ce sont deux choses qui se mélangent, qui se croisent dans une Europe extrêmement complexe, avec y compris des choses techniques toutes bêtes. Hein, c'est que, et ça, il va falloir y venir, tant qu'on est, si vous voulez, dans la zone de, on va dire, l'Empire romain méditerranéen, la partie méditerranéenne de l'Empire, les techniques de construction vont rester assez longtemps, puisqu'ils savent construire, on a vu, en briques, les arcs, les voûtes, des monuments assez gigantesques et solides. Toutes les parties nordiques, les techniques même de construction, elles vont se perdre. Elles vont se perdre et d'abord, on n'aura plus l'argent. Les Francs, ils n'ont jamais construit en pierre ni en brique. Les Alamans, les Gaules, les Visigoths, pendant longtemps non plus. Donc, si vous voulez, ils arrivent, mais ils ne connaissent pas non plus les techniques. Donc, vous avez aussi un bouleversement, y compris technique, qui fait que l'architecture va être, elle aussi, complètement bouleversée. Et il y a un recul, on peut dire. Globalement, il y a un recul des techniques architecturales dans les parties nord de l'Empire romain. Et donc, la fin du IXe siècle, hein, donc effectivement, on est là dans la construction de l'Empire autour de Charlemagne, etc., et par la suite. Alors, je reviens un petit peu dans ce qu'on pouvait appeler le paléochristianisme pour vous montrer les écarts énormes. Dans certains secteurs, vous avez vu, on était dans une partie, dans quelque chose de très symbolique, comme Adam et Ève ici, là, dans le nord de la Tunisie. On s'écarte du naturalisme, mais vous avez, ça c'est pour vous montrer la diversité, ça c'est le sacrifice d'Isaac, bon ça je passe, ça c'est encore Adam et Ève. Bon ici, encore Adam tenté, ou Ève cueillant la pomme, donc on voit bien qu'on est dans une, on s'écarte très très clairement du naturalisme et de l'imitation de la nature pour aller vers ce que certains chrétiens pensent être l'essentiel. Donc vous avez une part populaire, symbolique, philosophique du christianisme qui s'écarte de la représentation naturaliste. Et puis vous avez aussi, dans le même temps, et c'est ça qui est assez drôle, regardez par exemple ces sarcophages-là, qui sont les sarcophages chrétiens romains de la même époque, avec un style totalement différent qui, lui, continue la tradition romaine, comme on avait vu, par exemple, les mosaïques. Donc vous voyez que quand je vous dis qu'il y a un éclatement des styles, éclatement des peuples, éclatement des techniques, et là c'est un sarcophage chrétien, le sarcophage des deux frères, et là vous voyez d'ailleurs, on retrouve, et là on est très proche de ce qu'il y avait en termes de technique, de style, de mode de représentation de la colonne Trajane, hein, on est au 5e siècle toujours après, et là vous avez le symbole chrétien, on a là c'est Jésus et la Passion, donc Jésus conduit effectivement pour être fouetté, couronné d'épines, avec des paradoxes intéressants, puisque Jésus est donc condamné sous l'Empire romain, les soldats romains, Pilate, etc., sont un peu les méchants, et là c'est quand même le style romain, mais qui représente ceux qui ont martyrisé Jésus. Donc vous avez aussi des paradoxes intéressants, puisque ce sont un peu les bourreaux qui sont devenus chrétiens, mais en gardant leur style, leur culture esthétique. Et ça c'est assez marrant, cette espèce de passage lent, progressif et varié. Et là encore, un sarcophage du bon pasteur, on va retrouver le thème du berger ici, qui est un symbole chrétien, hein, le pasteur ici avec le mouton, et au milieu d'une sorte d'arbre de vie, et de vignes, alors les vignes dans la tradition chrétienne, les vignes c'est aussi les vignes du Seigneur, la vendange, il va semer, il va falloir récolter ce qu'il a semé, etc. Il y a beaucoup de métaphores à chaque fois, mais on voit bien que le style reste très proche, par exemple, de celui de la colonne Trajane. Donc on se retrouve vers le 5e siècle dans un maelstrom de style et de référence, parce que ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne suis quand même pas théologien, c'est qu'en plus, non seulement ça, mais ce qu'on appelle le christianisme est d'une complexité monstrueuse. On verra, c'est pour ça qu'on a appelé les querelles byzantines, parce que si vous voulez, autour de Byzance et de l'Empire chrétien qui est en train de, et de le christianisme qui est en train de s'instaurer, eh bien vous avez des notions et des concepts qui sont très variés. Juste pour vous donner une piste, par exemple, il y a les adoptionnistes, vous avez les arianistes, vous avez ceux qui pensent que par exemple, Jésus est adopté par Dieu, mais en fait n'est pas Dieu lui-même. Il y en a qui pensent que c'est vraiment le Fils de Dieu, mais effectivement qu'il est d'une nature différente de son Père. Il y en a qui pensent que c'est vraiment le Fils de Dieu, mais qu'il est consubstantiel. Et je ne parle pas encore de Marie, alors est-ce qu'elle a été conçue de manière immaculée ou pas, etc., etc. Vous avez donc une multitude de notions, est-ce que Jésus a des frères, est-ce qu'il en a pas, s'il a des sœurs, toutes ces... Et après, et ils se battent vraiment là-dessus, donc y compris quels sont les évangiles de référence. Hein, on sait maintenant à peu près qu'il y a 150 évangiles écrits, je 150 personnes différentes, mais il a fallu des siècles et des siècles pour n'en retenir que 4. Hein, et donc, vous avez des conciles, des batailles, etc., qui constituent vraiment le corpus très lent de constitution du christianisme. C'est pas né comme ça, putsch. Donc, non seulement vous avez des notions complexes, d'abord on a vu l'état politique, hein, socio-géopolitique, on voit le contexte culturel, technique, y compris théologique. Et puis aussi, ce rapport qui est au cœur de la représentation de Galla Placidia, bon, ça je passe, c'est le rapport avec le pouvoir terrestre. Puisque, si vous voulez, la tradition chrétienne, elle est de se séparer du pouvoir terrestre, puisqu'il y a une des phrases du Jésus chrétien dans l'évangile qui est « laisse à César ce qui est à César », c'est en gros le pouvoir terrestre, on le laisse à César, le pouvoir séculier, et nous on s'occupe, dans la tradition chrétienne, Jésus dit « mon royaume n'est pas de ce monde », c'est-à-dire que je suis roi symbolique, philosophique et religieux, mais j'ai rien à voir avec le pouvoir terrestre concret. C'est des enjeux, on sait très bien qu'ils sont très lourds, hein, parce que toutes les théocraties, y compris contemporaines, ne se sont pas débarrassées de ce rapport entre le pouvoir temporel et le pouvoir séculier. Et vous avez effectivement ici des questions qui se posent très clairement. C'est-à-dire que qu'est-ce que le pouvoir séculier, l'Empire, a à voir avec la religion? Et vous avez une instrumentalisation de la religion, évidemment, autour de l'empereur, Galla Placidia elle-même qui instrumente la religion pour pacifier et intégrer les barbares, entre guillemets, qui arrivent, hein, qui se convertissent et qui adoptent la religion locale. Donc il y a une instrumentalisation politique de la religion, on le verra même dans les Asturies, on le verra avec Charlemagne, on le verra en Irlande, etc. Donc vous voyez, on est vraiment... Alors attention, hein, ça met des siècles avant de se mettre en place tout ça, et c'est compliqué. Alors, revenons un petit peu justement à Ravenne. Après Galla Placidia, après son petit mausolée, si vous voulez, vous avez vu qu'il est quand même pas très grand, mais qui va marquer l'espace, le territoire, qui a une fonction symbolique importante, une impératrice qui, finalement, établit des barrières et des frontières géopolitiques, religieuses et culturelles, en gros qui pacifie des envahisseurs, entre guillemets, barbares, qui les christianise, et effectivement, dont... le mausolée borde un petit peu cette région. Alors Ravenne devient un lieu très important, toute l'Italie du Nord, hein, Ravenne et puis Aquileia, qui sont autour de Venise, ou les sud de Venise, nord de Venise. On est dans un espace très important des frontières de l'Empire romain. Et Ravenne va devenir un centre religieux très important, avec là des constructions de basiliques. On est toujours 6e siècle à peu près, donc après Galla Placidia, une des plus belles basiliques de Ravenne, là, attention, parce que là, vous avez la voûte, il y a une peinture baroque, hein, en sommet. Mais, c'est Saint-Vital, hein, Saint-Vital de Ravenne. Alors, moi, je suis pas allé, mais c'est un chef-d'œuvre, un petit peu comme Sainte-Sophie à Constantinople, hein, sauf que c'est plus petit, mais c'est une église de culture et de construction romaine, la tradition romaine encore, avec... structure en briques, parements en marbre et en stuc, mosaïque en or, etc. Toujours avec des arcs plein cintre. Donc Saint-Vital de Ravenne, qui est donc une des plus belles églises. Donc voilà, une coupole en mosaïque et une abside ici. Alors on voit qu'on est assez proche du style de Galla Placidia. Il y a encore des bleus, il y a des verts, il y a des éléments très naturalistes parce qu'il y a beaucoup de végétaux. Il y a encore des ombres et des lumières et des modelés sur les personnages représentés. Et il y a un programme, alors là, qui commence à se développer, c'est-à-dire que d'un coup, on sent aussi qu'on est vers le 6e ou 7e siècle, on commence à trier dans tout le fatras, enfin, excusez-moi, mais le bazar que sont toutes ces évangiles, toutes ces légendes, tous ces mythes, on commence à trier des scènes plus ou moins importantes qu'on va retenir. Le bon pasteur, le sacrifice d'Isaac, entre la Bible et le Nouveau Testament aussi, plus des parallèles, c'est quelque chose qui se construit de manière très longue, hein, avec des manuscrits, des références, des traductions, des évangiles qui semblent complètement délirants, et puis d'autres qui semblent plus justes, certains dont ils pensent qu'ils ont une valeur historique, etc. Et puis, il y a aussi l'enjeu de la représentation de Jésus. Comment est-ce qu'on représente Jésus? Comme un homme, comme un dieu, etc. Alors là, vous verrez des scènes. Alors ça, c'est toujours, on est vers 600-700 après J.C., donc on est toujours à Ravenne, et vous voyez qu'on est encore... Comment ?
C'est des mosaïques.
Ce sont des mosaïques, toujours. Alors là, on est toujours vraiment dans la continuité, si vous voulez, de Galla Placidia. avec des éléments qui sont encore un peu hérités de ce qu'on avait vu des peintures et des mosaïques romaines athées, c'est-à-dire le paysage, la nature, l'ombre et la lumière, les modelés, quelque chose qui est encore un petit peu naturaliste dans les couleurs, le vert, le bleu, le paysage, les nuages. Alors ici, il y a la main de Dieu qui interrompt Abraham, s'apprêtant à sacrifier Isaac. La métaphore ici de l'agneau et du mouton, effectivement, sacrificiel. Et on va remplacer progressivement le sacrifice d'Isaac par le sacrifice du mouton, et le sacrifice du mouton par le sacrifice du pain symbolique de la messe. Donc on a une sorte de progression aussi assez typique de cela. Mais vous voyez qu'on est encore assez proche de Gala Placidia. Là, voilà, les mosaïques sont absolument somptueuses de couleurs, notamment grâce au vert et au bleu, qui donne une impression de fraîcheur et de nature dans cette structure parfaite. On voit des chapiteaux aussi, alors, très richement décorés, de marbre, ciselés, etc. Alors, ce qui est clair, par contre, avec Saint-Vital de Ravenne, c'est que d'un coup, on arrive dans un monument chrétien de luxe, si vous voulez. On est dans quelque chose de somptueux, techniquement très élaboré, et on est dans une sorte d'affirmation du pouvoir et de la beauté et de la séduction, qui justement va faire râler. Et c'est là il va y avoir justement des enjeux, puisque la constitution, si vous voulez, du christianisme, et je vous dis, c'est plein de tensions et d'enjeux et de paradoxes, puisque c'est à la fois une religion populaire, symbolique et pauvre à l'origine, et en même temps une religion qui est utilisée par le pouvoir de manière presque idéologique et instrumentalisée. Et vous avez donc en gros des tensions qui continuent. C'est toujours la même chose, hein, entre d'un côté, si vous voulez, l'abbé Pierre ou les évêques, on a à peu près toujours... Le catholicisme a toujours fonctionné un petit peu sur ces deux clés, mais avec des tensions permanentes. Alors, voilà toujours hein, l'agneau pascal. Hein, donc on est ici. Alors, l'agneau, c'est aussi une sorte de concession à la tradition, à la culture juive. Alors voilà les anges. Un ordre qui s'établit aussi au niveau des nombres, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Forme géométrique, nombre, les quatre évangélistes, les points cardinaux, la Trinité. Donc il y a des choses qui vont devenir aussi symboliques, y compris l'abstraction des nombres. Mais là, vous voyez quelque chose de très luxueux, hein, qui emprunte, y compris à la tradition romaine, en gros polythéiste et de l'Empire, la séduction et la maîtrise. Et ça, voilà encore Saint-Vital, y compris les stucs, les modelés, bon, les chapiteaux. Là, vous voyez aussi alors le visage de Dieu, Jésus, Père ressuscité, est assez compliqué. Là encore, on établit des codes qui sont en train de se mettre en place. Pierre et Paul aussi, qui deviennent vraiment les piliers, c'est le cas de le dire, du christianisme. Pierre le pêcheur, Paul l'intellectuel, militaire, soldat, le converti, puisque c'est un juif romain, qui se convertit au christianisme, qui est un soldat, un intellectuel. Pierre, qui est le côté populaire, le pêcheur, le fidèle, etc. Donc vous avez aussi, on va constituer progressivement vraiment des icônes, au sens strict, des personnages incontournables, des images ou des paraboles, des images qui sont fortes, le bon pasteur, le sacrifice d'Isaac, etc., pour faire la transition avec l'Ancien Testament. Alors, les poissons, évidemment, puisque les poissons, d'ailleurs, c'est drôle, ce sont des poissons dauphins, mais rappelez-vous que le poisson, c'est un symbole chrétien par essence, parce que ictus, ça se dit en Grèce, et ça s'écrit avec un i, un ki et un t, hein, ce qui sont les initiales de Jésus, Christus, Théos, fils de Dieu, etc. Donc, il y a toujours cette idée-là du poisson, et puis Pierre était pêcheur. Alors, on a, ça, c'est un portrait de l'impératrice. Alors, là aussi, vous voyez, c'est assez complexe, c'est qu'on va mettre sur le même plan, au sens strict, hein, qui sont toujours dans la basilique, l'impératrice ou les empereurs et les personnages sacrés, qui se retrouvent associés d'abord dans le même bâtiment, qui se trouvent associés dans la technique, qui se trouvent associés dans la représentation et aussi dans le pouvoir. Alors là, on voit qu'il y a une fusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Alors, juste un truc, on voit encore quand même aussi, à cette période-là, on est à Saint-Vital de Ravenne, hein, c'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, les impératrices vont avoir un rôle très important. Gala Placidia, Théodora, on verra aussi évidemment Irène, etc. Puis il y en a plusieurs. Donc le couple empereur-impératrice est très important, puisqu'ils sont représentés, là encore, avec toutes leurs figures, etc. Et même leurs suivantes. Donc voilà Saint-Vital de Ravenne, quelques éléments. Voilà justement l'impératrice et sa cohorte, on va dire, de suivants et de suivantes. Mais ces mosaïques sont dans la basilique Saint-Vital avec les figures religieuses et sacrées. Alors on voit aussi donc cette figure, alors de plus en plus hiératique, hein, mais comme effectivement une princesse chrétienne. Regardez là, très beau effet d'ombre et de lumière sur sa robe de soie, et on imagine quand même assez bien la beauté de ces lieux. Et voilà l'empereur, Maximianus, etc. Et vous voyez que l'empereur est ici entouré de prêtres et de soldats. Et les soldats ont d'ailleurs un bouclier où vous avez le phi et l'euro, c'est-à-dire le symbole chrétien. Donc, vous voyez cette histoire Pierre et Paul, hein, Paul le soldat qui a son épée, hein, cette idée aussi de la force militaire au service de l'empereur, lui-même béni par Dieu, au service de Dieu, représenté presque comme Jésus et ses apôtres. Et là, tout d'un coup, vous avez aussi une fusion, un type de représentation entre Jésus et ses apôtres, ou ses piliers, et l'empereur avec ses préfets ou ses prêtres qui sont fusionnés. Donc, là encore, quelque chose de très établi, hein, avec un pouvoir qui s'établit, et les ordres différents, les prêtres, les moines, etc. Tout cela, c'est toujours à Saint-Vital de Ravenne. Alors, je parlais d'Aix-la-Chapelle, qui est à peu près contemporaine, c'est qu'on est vers 600, 700, 800, la chapelle palatine de Aix. Donc, là, on voit, ce qui est aussi notable, c'est qu'on voit quand même il y a une homogénéité qui est en train de se construire, puisque vous avez un style très très proche entre la chapelle palatine d'Aix et Saint-Vital de Ravenne. On trouve à peu près les mêmes motifs, à peu près les mêmes principes. On trouve ici le prince, le roi, et la chapelle palatine, c'est la chapelle du prince, hein, c'est le palais. On trouve des motifs végétaux et des techniques absolument somptueuses sur animaux, végétaux, herbiers, etc., qui sont d'une richesse incroyable. Il s'agit d'établir un siège à la fois de l'empereur, du pouvoir, et qui est christianisé, très clairement. Et voilà encore le type, alors au niveau du style, et là le trône de l'empereur, avec marbre, etc. Alors, et là encore on trouve le plan centré, le plan central, comme on le voit ici, avec toujours les techniques romaines de construction, avec des voûtes et des arcades, puisque ça leur permet, y compris, de faire des monuments gigantesques. Alors ça, c'est une technique qui est relativement peu répandue, parce qu'elle coûte cher. Il n'y a pas beaucoup d'architectes et de constructeurs qui sont capables de le faire encore. Donc c'est plutôt visiblement réservé à quelques endroits particulièrement choisis. Alors par contre, ce qui est notable, c'est que ces monuments somptueux sont confus et vont choquer pas mal de penseurs ou une partie, y compris, de la population. Puisque justement, il y a une confusion des genres. Il y a une confusion de genres, le pouvoir terrestre et le pouvoir spirituel. Ce sont des palais absolument somptueux dans lesquels vous avez une richesse et une technologie extraordinaire. Vous avez des éléments qui ne sont pas du tout chrétiens, qui éloignent, hein, on peut dire, des éléments de lumière, des végétaux, des animaux, des éléments même presque climatologiques. Vous avez une sorte de diversité des sujets, des thèmes qui vont être considérés comme finalement par certains s'écartant de la tradition religieuse, s'écartant du vrai message religieux. Et c'est là, je vous ai parlé l'autre fois de Léon l'Isaurien, qui sera un empereur chrétien qui va progressivement remettre en cause le culte des images, ce qu'on appelait les iconoclastes. Alors, devant le luxe, devant la séduction des images, il va théoriser l'idée qu'il n'y a pas à faire d'image de la tradition de la religion monothéiste. Il s'appuie d'ailleurs sur la Bible, sur la tradition juive, qui le dit très clairement. La tradition juive refuse les images. Et vous avez donc, on n'est pas encore, il n'y a pas encore l'islam, n'est pas encore conquérant dans toute cette Constantinople et dans tout l'Orient et l'Afrique du Nord, mais ça sera aussi un des enjeux, effectivement, on verra, de l'islam, on sait aussi cette histoire des images. Et donc vous avez une autre querelle qui s'inscrit en plus des querelles de savoir quelle est la nature de Jésus, de son Père, de la Trinité, de Marie, etc. C'est qu'est-ce qu'on fait des images. Et autour de Léon l'Isaurien, vous avez une guerre, une querelle qui va déchaîner en guerre avec, sanglante, avec des destructions d'images, ce qu'on appelle les iconoclastes, qui vont détruire les peintures, les mosaïques, les sculptures et les images qu'ils considèrent comme s'éloignant du christianisme. Donc on est dans un christianisme qui veut se rapprocher, si vous voulez, du symbole, du contenu, et s'écarter de la séduction. Et chose, alors je vais un peu vite, mais chose assez intéressante aussi, c'est que c'est l'impératrice Irène, qui est une personne très forte, très puissante, dont on voit ici l'impératrice Irène, qui va réussir à réimposer de nouveau le culte des images. Donc Irène va être ce qu'on appelle une des chefs du courant iconodoule, c'est ceux qui aiment ou adorent, idolent les images, icônes, images, idole ou dolou, je ne sais pas quoi, c'est un suffixe qui veut dire aimer, apprécier, adorer. Et Irène va réimposer le culte des images. Alors pour le faire, il va falloir quand même, et c'est là où ça devient pertinent, il va falloir le théoriser. Il ne s'agit pas juste, c'est pas juste un rapport de force. Comment est-ce qu'on va justifier des images dans les basiliques et dans les lieux chrétiens? Alors ici, vous voyez, donc ça c'est à Sainte-Sophie. Alors Sainte-Sophie, c'est compliqué, c'est comme à Saint-Marc de Venise, en fait, parce que vous avez des images qui vont s'étaler sur plusieurs siècles. Et en plus, comme elles sont toutes faites de la même technique, c'est assez compliqué de les dater. Hein, puisque autant une peinture, une fresque, il y a un style différent. Autant justement à partir d'Irène et même un peu avant, comme les mosaïques vont établir des règles et des codes très stricts, c'est assez difficile de dater des icônes. Hein, puisqu'on peut dire qu'à partir d'Irène, donc, eh bien en fait, l'iconographie au sens strict byzantine va être établie comme une règle. Alors d'ailleurs, on voit ici Irène représentée comme, comme Théodora et comme sa prédécesseuse, sauf qu'on voit bien un peu sa coiffure. Hein. Autour de Marie, ici vous avez l'empereur, l'air de rien, vous avez quand même ici une manière de mettre en scène l'empereur et l'impératrice autour de personnages sacrés, ce qui peut sembler une hérésie totale, mais ils sont, et en plus, l'empereur et l'impératrice ont une auréole, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme à part et sacrés. Mais là, vous avez un ordre hiérarchique, puisqu'ils sont, en gros, ils sont quand même séparés à gauche et à droite, et elle est au centre. Donc l'idée de la centralité devient quelque chose d'important. Et vous avez ici l'enfant Jésus. Alors, ce que l'on retrouve aussi, c'est que on voit aussi des choses qui sont un peu hérétiques, en fait. C'est que le christianisme des origines, des évangiles, ça, ne laisse quasiment aucune place à Marie. Et l'enfant Jésus, on s'en fout au début. Dans la tradition des évangiles, c'est juste Jésus qui fait son discours, son message, c'est en gros d'adulte à adulte. Il n'y a pas des histoires de petit Jésus, de machin, ni de naissance, c'est des choses qui sont totalement relatives. Mais progressivement, vous avez dans la tradition chrétienne, vient ce personnage de Marie, mère à l'enfant, etc., commence à s'introduire progressivement et prend une place très importante dans certaines tradition chrétienne, pas dans tous, pas dans toutes. Donc vous allez avoir le côté masculin de Jésus fusionné avec son père, figure masculine, et une figure féminine qui reprend toute cette iconographie, tout vieux style, peut-être, et peut-être une résurgence de cette espèce de millénaires de culte à la femme qu'on avait vue, notamment à Chataluyuk, etc., ou chez Isis, Hathor, etc. Donc ça aussi, on avait vu les Isis lactans, hein, les Isis avec les enfants, les maternités, les figures maternelles, il y en a beaucoup. Et ça justifie aussi peut-être l'idée que l'empereur et l'impératrice soient représentés tous les deux, hein, hommes et femmes. Alors voilà Irène. Alors le portrait est absolument remarquable, hein, de grande finesse, hein, avec y compris du rouge aux joues. Alors ça c'est, je présente, c'est très beau en termes de un véritable portrait. Et ses cheveux tressés, donc. Et alors, un costume absolument somptueux. Et tenant un rouleau, alors là, il y a quelque chose qui est important, c'est l'importance accordée au texte. Alors, comment est-ce que Irène va justifier le culte des images et des figures? Parce que ça, quand même, il faut le justifier. Eh bien, Irène, entre autres, associée avec des prêtres et des théoriciens, alors moi, là-dessus, je ne sais pas tous, vont découvrir ou faire émerger une légende assez incroyable et drôle, enfin drôle. C'est la légende du roi Abgar. Abgar, A-B-G-A-R. Alors, attention, parce qu'on va retourner dans le passé. Le roi Abgar était un petit roi de la région Constantinople, enfin avant Constantinople, donc de Byzance, dans l'Antiquité romaine. Et en l'an 30 à peu près, c'est-à-dire quand Jésus était encore un jeune homme actif en Palestine, le roi Abgar, qui était un roi d'une petite zone comme ça de l'Empire romain, quand même dans l'Empire romain, aurait entendu parler de ce prophète ou de ce jeune rabbin un peu révolutionnaire et étonnant et détonnant en Palestine, et fasciné et séduit par ses théories, lui aurait envoyé un courrier pour lui demander de lui envoyer son portrait. Donc Abgar écrit à Jésus en Palestine, par l'intermédiaire de je sais quel courrier, ou quel, pour que Jésus lui envoie son portrait. Et Jésus aurait envoyé son portrait au roi Abgar. Mais le roi Abgar, par la suite, quand Jésus a été crucifié et les chrétiens persécutés, très vite, aurait caché le portrait de Jésus dans une sorte de coffre, et ce portrait aurait été oublié. Et puis, comme par hasard, ça c'est super, juste au moment où l'impératrice Irène et les iconodoules ont besoin d'images, ils redécouvrent la tête de Jésus, ils redécouvrent le portrait que Jésus avait envoyé. Et là, vous avez donc, on appelle ça le mandylion. Le mandylion, alors ça c'est pas tout à fait ça, M-A-N-D-Y-L-I-O-N, le mandylion. On appelle ça aussi la sainte face d'Édesse. Édesse, c'est la ville du roi Abgar. Donc on est dans l'Empire romain, mais du côté de Byzance. Édesse, E-D-E-2-S-E. Et donc, on aurait retrouvé ce portrait, ce rouleau, et ça justifie justement quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que tout d'un coup, certains vont théoriser, et Irène en plus, que Jésus lui-même a bien voulu qu'on fasse sa tête. Si Jésus a bien voulu qu'on fasse sa tête, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on arrête de faire sa tête. Et il va y avoir donc des icônes, des représentations du roi Abgar recevant la sainte face d'Édesse, ou le mandylion, qui est apporté par les messagers qui viennent de Palestine, qui apportent la tête de Jésus. Alors, c'est complètement absurde, parce qu'il a déjà la croix, alors qu'il n'est pas encore crucifié, enfin bref. Mais vous avez donc, et vous avez vu, on voit sa couronne, y compris une sorte de lien, parce qu'il a la même couronne que Irène, etc. Donc, on va inventer une continuité sur presque 600 ou 700 ans, plus que ça, puisque Irène et les Byzantins chrétiens vont donc dire, ben, nous sommes dans la continuation de ce roi déjà chrétien, hein, du 1er siècle de notre ère, et qui lui-même déjà était fasciné par la tête de Jésus. Alors la sainte face d'Édesse, par contre, elle-même, où elle est, laquelle est-elle, on ne sait pas, mais vous avez donc, vont se théoriser des choses qui sont importantes, c'est l'idée que, puisque Jésus déjà a envoyé sa tête, c'est qu'il veut bien qu'on fasse sa tête. Ensuite, si Dieu a fait l'homme à son image, c'est qu'il n'a pas peur de son image. Donc en gros, il est licite et il est possible de faire des images du Dieu. Autre chose, par contre, c'est que cette sainte face d'Édesse, le mandylion, et c'est là où on arrive à quelque chose que vous allez voir qui théoriquement est intéressant, n'est pas faite de main d'homme, puisque c'est un portrait, on ne sait pas très bien comment il l'a fait, mais est-ce que c'est une empreinte, etc. C'est un portrait, en tout cas, qui est déjà divin. Et il y a même un terme grec, je ne peux pas l'appeler en grec, on appelle ça akéropoïète. Akéropoïète, c'est-à-dire non fait de main d'homme. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez des images qui sont des sortes d'apparitions. C'est-à-dire, en gros, eh ben, c'est directement envoyé par Dieu. Donc, ce n'est pas les humains, ils ne sont pas intervenus. C'est directement une sorte de message divin. C'est une image qui arrive directement des personnages sacrés. Et donc, ces images akéropoïètes sont parfaitement justifiées. Et justifiable. Donc on peut continuer à les faire. On peut continuer à les faire. Et alors vous voyez, c'est très populaire. On va retrouver très souvent. Alors là, c'est en vieux grec, hein, encore. Toujours, voilà. Là, ici, donc Abgar qui reçoit, Aïdès qui reçoit l'image de la tête de Jésus et qui l'embrasse, effectivement. Donc vous êtes dans des manuscrits, c'est quelque chose qui va être une scène populaire. Voilà, encore dans d'autres manuscrits, Abgar reçoit la sainte face, etc. Là, et là, vous avez, dans un manuscrit, Irène, encore avec l'empereur, autour de Jésus, alors en train de transmettre un manuscrit, etc. Toujours est-il que ça veut dire que on peut faire des images, mais à condition qu'elles ne soient pas faites de main d'homme. C'est pour ça que tout d'un coup, la mosaïque devient intéressante. La mosaïque, puisque la mosaïque ne laisse pas de traces. La mosaïque semble effectivement presque immatériel, puisque vous n'avez pas de gestes, vous avez une sorte de matière mise à distance. Et puis, ce qui va être aussi typique de l'art byzantin qui va s'établir, alors juste, je reviens un tout petit peu, il y a une autre figure qui va être licite, il y a deux autres figures qui vont être licites. Alors attention, ça c'est une icône récente, de 1995, mais qui représente... Alors pourquoi j'ai fait exprès de mettre celle-ci? C'est parce qu'en fait, la tradition orthodoxe, depuis 800 ans, depuis 1000 ans à peu près, continue le même style. Parce qu'ensuite, je vais aborder la question là-dessus, pour les orthodoxes, enfin, ça ne s'appelle pas encore orthodoxe, mais pour les byzantins, représenter des personnages sacrés, donc des icônes, images sacrées, icônes, eh bien, ça va être un peu comme une prière. C'est-à-dire, en fait, c'est un rituel. Comme la messe chez les catholiques, c'est le rituel de la transsubstantiation. Vous avez le pain qui devient Jésus, vous avez la communion, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'idée théorique, c'est qu'à chaque fois, vous avez un rituel qui fait que, d'un coup, il y a une sorte de miracle qui s'accomplit, et boum, le pain devient le Dieu. Eh bien, les peintres d'icônes vont être pareils. C'est-à-dire que quand ils vont peindre, bim, ce n'est pas eux qui peignent. Ils sont les prêtres de Dieu, quelque part. Ils sont inspirés, et tout d'un coup, ils peuvent peindre parce que c'est le Dieu qui peint à travers eux. Donc, c'est pas leur main, en fait. C'est comme le prêtre. À un moment, le prêtre, on oublie sa personne, il devient un instrument de Dieu. Ben, le peintre, l'artiste d'icône byzantine, c'est quelqu'un qui... Effectivement, donc, il y a un rituel qui va être établi, de la manière que, si vous voulez, les costumes des prêtres ou les rituels même de la messe vont être très stables, même encore dans la tradition catholique, sauf, maintenant, c'est plus en latin, mais... Si vous voulez, pendant des siècles, c'est un rituel. Vous regardez même les costumes des prêtres dans les peintures du Moyen-Âge, c'est quasiment les mêmes qu'au XIXe siècle. Vous avez une sorte de dogme qui s'établit complètement. Donc on voit que ça va très loin jusque dans les images. Alors là, eh bien, alors l'idée, l'autre figure importante, c'est celle de la Véronique. Ce qu'on appelle la Véronique, c'est Véronique qui, au moment où Jésus porte sa croix, etc., lui propose de s'essuyer le visage, puis il est trempé de sueur et de sang, il prend son mouchoir et boum! Tout d'un coup, il y a l'empreinte du visage qui est fait sur le mouchoir de Véronique. C'est encore non fait de main d'homme. Hop. C'est donc licite. Vous avez donc le visage de Jésus, il est à la fois envoyé par Jésus, puis par Véronique. Et vous allez avoir aussi une autre justification de les peintures religieuses, c'est que la tradition va inventer, dans tous les évangiles complexes, on va inventer l'idée que Saint Luc aurait peint Marie. Je ne sais pas pourquoi, mais Luc aurait peint Marie. Donc il y aurait un portrait de Marie qui aurait été fait par un personnage sacré, donc avec l'accord, en gros, de Marie. Parce qu'il fallait justifier la tête de Marie aussi. Parce que Jésus, bon, ça va, Jésus, Dieu, c'était bon, on avait le truc, mais Marie, comment est-ce qu'on peut justifier? Eh bien, il se trouve que Saint-Luc aurait fait sa tête de son vivant. Donc c'est bon. On a deux origines authentifiées à Kéropoyette, parce que Saint-Luc, il est quand même aussi, lui aussi, quelque part... Il a envoyé, c'est un saint, donc c'est un personnage presque divinisé. Et à partir de là, s'établit justement ce qu'on appelle une iconographie très codifiée, qu'on va appeler en gros le style byzantin, et qui va s'écarter, alors par contre, qui va s'écarter, si vous voulez, du naturalisme. On va voir presque disparaître les bleus, les verts et les paysages. Hein. On va voir une figure... synthétique d'un Jésus Dieu le Père qui est à la fois jeune mais à la fois barbu comme le Père, à la fois barbu comme Zeus ou comme comment il s'appelle, je l'ai présenté l'autre jour, cette espèce de personnage barbu grec et pas Osiris, c'est Apis, voilà, à la fois Osiris et Apis, hein, qui était une sorte de figure qui est, alors par contre il y a aussi non seulement une iconographie, une technique et une disposition. C'est-à-dire que les peintures, il faut qu'elles soient en hauteur, c'est-à-dire inaccessibles par la main et par le corps, et donc elles sont en hauteur. Elles sont faites en mosaïque, tout d'un coup la mosaïque devient, je vous ai dit, quelque chose de très important, parce que c'est cette idée d'abord d'un infini, et ensuite on ne voit aucune trace de main, aucune trace de geste, comme si c'était une sorte d'apparition. Elles sont hiératiques et figées, parce qu'effectivement il ne s'agit pas de faire des personnages en action, ce sont des sortes de visions, donc elles sont en hauteur, elles dominent. Et aussi, vous avez l'idée de l'or. Ah, l'or qui va être quelque chose qui va remplacer progressivement tous les décors. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus jamais de décors, ni de paysages, ni de cieux, ni de verdure, ni de rochers. Puisque d'abord, on s'écarte de l'espace réel pour être dans des visions sacrées. Et l'or a ici quelque chose de très important, rappelez-vous, puisque l'or, c'est aussi ce matériau terrestre qui devient solaire. La terre opaque qui devient lumière, Donc la transformation aussi de la matière terrestre en matériaux symboliques, célestes, précieux, etc. et sacrés. Donc vous avez ici une codification très claire, très intellectuelle et intelligente, qui répond à la fois aux exigences d'image et aux besoins d'image, on va dire, qui justifie certaines splendeurs, parce que les chrétiens se sont très bien rendus compte que en mettre plein la vue, ça c'est l'héritage romain, mais en mettre plein la vue, c'était aussi un vecteur de séduction, c'est-à-dire faire des choses merveilleuses, ben, les gens n'avaient pas de spectacle, donc si vous voulez, vous leur proposez des bâtiments merveilleux, ils disent chouette, quoi. C'est bête, hein, mais c'est la séduction aussi par le spectacle. Et vous avez donc, y compris, c'est justifié théoriquement, c'est justifié intellectuellement, ça permet de perpétuer une tradition romaine et de la faire rentrer dans des codes théoriques, mosaïques, par exemple, etc. Et puis, on va continuer par contre, puisque aussi, dans la sainte phase d'Hédès, il s'agit quand même d'un roi qui a été fait la transition avec Dieu, le Dieu humain, la place de l'empereur est importante, parce que tout d'un coup, c'est un médiateur. C'est que l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui aide à établir et à renforcer la religion. Donc, si vous voulez, alors, c'est complexe, ce rapport entre les empereurs et la religion, mais ça dure jusqu'au schisme quasiment anglais, hein. Alors, vous voyez qu'à partir de là, les figures byzantines deviennent de plus en plus épurées, hein, c'est-à-dire que là, il n'y a quasiment plus de décor. On a alors la voûte et le cercle sont des images du divin. Vous avez encore les sortes de les apôtres et les nombres, ici, 6 et 6, 12 apôtres, alors toujours autour de Marie, Mère de Dieu, etc. Hein, ça, c'est des choses qui vont être totalement établies et que l'on voit... voilà, se continuer. Alors, là où, si vous voulez, la preuve que ça marche, c'est que ça fonctionne jusqu'au XIIIe, XIVe, XVe siècle, quasiment jusqu'à, par exemple, Venise, hein, les périodes comme ça, et même encore dans les églises orthodoxes bulgares, ou russes, ou grecques, c'est à peu près l'esthétique n'a pas changé. C'est-à-dire, en gros, c'est la même chose. En gros, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être parfaitement établi et stable, et qui va s'imposer... ce qu'on va appeler le style byzantin. Alors, ce style byzantin, tant qu'il n'y a pas eu la rupture avec le christianisme romain, c'est quelque chose qui va être assez dominant. On va trouver donc, surtout quand même, dans les parties comme Venise, la Vénétie, le nord de l'Italie, on a vu quand même avec sa chapelle, on va voir la Sicile aussi. Hein. Alors, une fois qu'on a établi les codes, ils vont quand même s'écarter un petit peu des grands principes et parfois, de temps en temps, aller intégrer des images canoniques, qui font partir des canons, hein, notamment Adam et Ève, on a vu qu'ils sont quand même essentiels, mais on s'éloigne du naturalisme présent, et là on est à mi-chemin entre le symbolisme et le naturalisme. Hein. Donc voilà et le texte, hein, soit en grec, soit en latin, qui est important, là encore, Adam et Ève, Dieu le Père, etc. Alors juste une chose, c'est qu'effectivement, si vous voulez, alors, pour avoir une petite carte, parce que parfois on s'y perd, donc... Byzance, Istanbul, Byzance est là, hein, Constantinople, donc juste à cette jonction-là. Rome est quand même loin. Et vous avez la zone de contact principale entre le style byzantin et le style romain, bah, effectivement, on va voir Aix-la-Chapelle, une certaine verticale ici. Et puis, effectivement, par contre, dans le christianisme et dans la chrétienté, il y aura quand même deux influences majeures. L'influence orientale qui va être en gros dans toute Turquie, Grèce, on voit les Balkans, hein, plus effectivement Hongrie, Slave, etc. Et puis tout ce qui sera ensuite plus romain, hein, et alors quand on dit romain, ça sera ensuite aussi très influencé par les cultures, on va voir aussi du nord. Et ça, c'est pour ça que le sujet suivant, c'est sur le style irlandais, qui lui aussi va introduire encore autre chose. Là, si vous voulez, on est dans une espèce de tradition orientale, et puis ça va aboutir aussi à la séparation de l'Église d'Orient et de l'Église d'Occident, puisque les rivalités territoriales vont jouer aussi beaucoup. Alors, quelques variations autour du style byzantin, justement, dans les zones contact. Ça, c'est à Palerme, en Sicile. En Sicile, vous avez la chapelle des Normands. Alors quand je vous parle de style justement mélangé, que la Sicile, on est quand même au milieu de la Méditerranée. Vous avez un style byzantin évident, une influence arabe, c'est possible, c'est au XIIe siècle. Donc une influence même musulmane dans le type d'art et d'architecture, hein, ça c'est des types orientaux musulmans, et y compris dans le plafond à caissons, hein, qui a une inspiration musulmane. Et les Vikings étant passés par la Sicile, vous avez aussi quelques traces des influences vikings. Donc vous allez avoir des lieux de rencontres comme ça, de stylistiques, qui sont très intéressants. Alors, voilà, ça c'est toujours la chapelle des Normands à Palerme, en Sicile, qui est au XIIe siècle. Donc c'est un style qui est très efficace, qui a... Alors ça c'est toujours ça. Alors là, on voit qu'on s'écarte un petit peu, justement, des canons byzantins, puisqu'il y a quand même ici une foule de personnages, même si la Bible, ils sont tous licites, on va dire, il y a à chaque fois, vous avez des pentes, il y en a qui les empruntent plus ou moins, avec plus ou moins d'énergie. C'est-à-dire, à partir où on a le droit de représenter Jésus, puis Jésus enfant, puis sa mère, puis les saints, on va continuer, on va dire, bon, tiens, on va rajouter. C'est-à-dire, très vite, quand même, on va retrouver le bonheur de la représentation et de la figuration reprend très souvent le dessus, parce qu'en plus, c'est une chose toute bête, mais si on représente toujours la même chose, ça lasse. Donc, on sait très bien aussi qu'en multipliant les images et les références, ça peut aussi séduire et convaincre, et tout le monde peut y trouver son compte. Tandis que s'il y a juste deux ou trois personnages, c'est un peu pauvre. Donc le christianisme est très très souple là-dessus, et capable d'intégrer une multitude et presque polythéiste dans ses pratiques et ses références. Alors, ça, c'est, par exemple, c'est aussi au nord de Venise, c'est l'île de Torcello. Alors ça, c'est 12e, 14e siècle. Vous vous montrez comment ça dure, hein. C'est drôle. À Venise, cette île qui d'ailleurs est l'ancêtre de Venise, qui était plus peuplé que Venise avant, c'est au nord dans la lagune, une très belle petite île, et vous avez cette église magnifique avec un jugement dernier. Alors là, on va voir que le jugement dernier, ce n'était pas une tradition byzantine, c'est une tradition qui vient d'Espagne. Et donc, là encore, on a des rencontres au niveau de ce qu'on appelle l'iconographie, c'est-à-dire des sujets de représentation. Mais ça reste, on va dire, le style byzantin, puisqu'on retrouve toujours le fond doré. Quasiment pas de décor, hein. Ça c'est une des tendances que vous avez là aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de décor, il n'y a plus les grands végétaux verts, il n'y a plus les animaux. On est quand même, malgré tout, dans des figures sacrées, des personnages sacrés avant tout. Ça c'est quand même ce qui caractérise le style byzantin. Et voilà, alors, vous imaginez, il y en a des multitudes, parce que ça soit à Venise, Saint-Marc à Venise, hein, qui restait. Alors, après, vous avez des choses qui sont assez rigolotes, parce que une fois qu'un style est très bien établi, même certains chrétiens catholiques romains vont avoir l'intelligence et la subtilité de s'adapter. C'est-à-dire que Saint-Marc va rester dans un style byzantin à fond doré jusqu'à la Renaissance et même après, jusqu'à l'ère baroque. Un peu comme quand Trajan va en Égypte, il fait de l'égyptien. Il y a des moments, dans certains cas, certains principes chrétiens, ils vont se fondre aussi et considérer que certains styles méritent d'être respectés parce qu'après tout, ils sont licites et puis ils ont leur propre histoire. Par exemple, la cathédrale de Milan gothique, style gothique, elle est finie au XVIe siècle. Si vous voulez, 300 ans presque après la fin de l'art gothique en Italie, etc. Donc si vous voulez, vous avez des choses comme ça qui sont assez étranges, mais qui montrent aussi une certaine souplesse. Alors, sur Galla Placidia, vous avez vu, on était dans quelque chose d'assez riche. Alors juste un petit détail tout bête, l'impératrice Théodora, qui... alors là, voilà. Ça a donné lieu à un film, parce que Théodora était en fait, Théodora et sa famille étaient des danseuses de Constantinople, effectivement. Et alors, comment et pourquoi elle est devenue impératrice, je ne sais plus qui, comment elle a séduit l'empereur, etc. Serait-il qu'elle est devenue impératrice, une impératrice très importante, Théodora. Mais la tradition dit effectivement qu'elle avait une vie assez incroyable, et c'était une ancienne danseuse orientale devenue impératrice chrétienne. Donc vous avez des trajectoires assez étonnantes, y compris au niveau des femmes, qui ont inspiré Hollywood. Et donc voilà, Théodora en saltimbanque, qui ensuite va devenir impératrice. Donc vous avez des figures aussi féminines très intéressantes, notamment dans cette partie orientale. Alors, puisque je vous ai dit qu'on allait quitter un peu l'Orient pour aller vers l'Occident. On va aller vers dans l'Occident de l'Occident de l'Occident, justement en Irlande. Et il y a une raison aussi à ça. Pourquoi ça ne s'ouvre pas, ça? Voilà. Alors, je résume. Voilà, ça s'ouvre. C'est que la culture et l'Empire romain, non chrétien, avaient établi un système de communication, de routes et de techniques absolument prodigieux. Il est arrivé jusqu'aux frontières, justement, nordiques, hein, le mur d'Adrien qui sépare avec les Pictes et l'Écosse, mais l'Irlande avait été romanisée, mais pas le nord de l'Écosse, hein, pas l'Écosse. Mais l'Irlande, toute la Gaule, y compris jusqu'à Ouessant, et la péninsule ibérique, l'Afrique du Nord, et ensuite l'Orient jusqu'aux peuples slaves et germains, etc. Et l'Afrique du Nord, en gros, jusqu'au désert. Hein, toute l'Afrique du Nord était christianisée, l'Égypte aussi, les premiers chrétiens, les Coptes, on verra d'ailleurs les Coptes, Éthiopie aussi, parmi les premiers peuples chrétiens d'Afrique du Nord, vous avez en Égypte, en Éthiopie, et vous avez aussi en Irlande. Alors, l'Irlande, c'est une île, évidemment, mais quand l'Empire romain se déchire, est renversé, envahi, modifié, etc., eh bien, en fait, dans cet empire romain chrétien, ils restent en Irlande, ben, ils sont un peu coupés du monde. Là, ils n'ont plus de communication, il n'y a plus de réseau, au sens strict, il n'y a plus de route, il n'y a plus de transport, il y a très peu d'échanges avec l'Empire romain, existe, est en lambeaux, en morceaux, se divise, etc. Donc tout ça, c'est compliqué. Et en plus, on va dire, la partie centrale des îles britanniques, c'est-à-dire tout ce qu'ils appellent l'Angleterre, et saxonisé, c'est-à-dire par des Germains, qui ne sont pas chrétiens. Donc, si vous voulez, il reste un noyau de chrétiens en Irlande, mais ils ne sont pas beaucoup, et qui sont coupés ben, de l'Empire romain chrétien, et y compris parce que les îles britanniques sont saxonisées, donc ne sont pas chrétiens. Il va falloir attendre plusieurs siècles avant qu'ils redeviennent chrétiens, etc. Et donc, il y a quelques noyaux chrétiens tout petits qui restent en Irlande. Et donc vers le 5e, 6e siècle, alors ils sont quelques moines, hein, quelques moines, et un peuple qui reste chrétien, et ils vont préserver, mais à leur manière, la tradition chrétienne. Et très très éloignée justement des traditions méditerranéennes. Et ce qui caractérise, et c'est là où c'est assez drôle, c'est que bon, l'Irlande, même encore maintenant, c'est pas un pays des grandes villes, c'est pas le pays des grandes routes, ni des grandes constructions. Donc, si vous voulez, on est très très loin de ces traditions millénaires qu'il y avait dans l'Empire romain, on va dire méditerranéen, des villes, on a vu qu'elles étaient presque de Châtelet-Luduc, là, de presque même Jéricho, c'est des villes qui avaient 9-10 000 ans à peu près à cette époque-là, des traditions urbaines, traditions aussi du soleil, de la construction, des bâtiments en dur qui restent, y compris presque de cités avec des grandes. Des grands groupes humains, alors qu'en Irlande, ça reste encore des villages, des paysans ou des éleveurs tout petits, peu de communication, un climat qui n'est pas toujours facile, on va dire, donc beaucoup de repli sur soi, sur des petites communautés. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'on est très très loin au niveau religieux et culturel. Et ce qui caractérise les peuples souvent, soit nomades, qui vivent en petits groupes, et qui bougent ou qui sont. C'est que s'ils ne s'investissent pas dans les grands monuments, ni dans la construction qui dure, leurs biens les plus précieux, ils les ont souvent sur eux. Et c'est ce qui caractérise l'art des invasions d'ailleurs, des Vikings, des Germains, des Slaves, etc. Les biens qu'on a sur soi, c'est des tissus et des bijoux. C'est des petites choses raffinées. Des petites choses raffinées, parce que d'abord, on les a toujours sur soi. On ne peut pas construire en grand, parce qu'on n'a pas ni les moyens, ni l'argent, ni la culture. Et donc, si vous voulez, par contre, vous allez avoir beaucoup de, voilà, orfèvrerie, broderie. Orfèvrerie et broderie, ça veut donc, au lieu d'être dans l'étendue, on est dans la concentration. Et dans l'orfèvrerie et la broderie, eh bien, c'est le style. Quand ils vont vouloir donner de la valeur à la tradition chrétienne, ils vont utiliser des techniques qui sont, on va dire, issues de la broderie ou de l'orfèvrerie dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on va être complètement dans le symbolique. Hein. D'abord, l'écriture, là, on n'est pas dans l'image, on n'est pas dans la figuration. Alors, Je reviens un petit peu là-dessus. Un des sommets de cet art de l'enluminure celte ou irlandaise, c'est ce fameux Book of Kells, qui date effectivement du 8e siècle à peu près, les datations ne sont pas toujours évidentes, qui est conservé à Dublin. Et effectivement, alors là je vous pose quelques pages, qui est un chef-d'œuvre absolu, alors, attendez, de l'enluminure de type. Ah, pourquoi ça, c'est pas comme ça que ça marche? Book of Kells. Kells, K-E-L-K-E-2-L-S. Ah, voilà. Alors, quand on parle effectivement de. D'entrelacs, alors justement, on va l'entrelacs. L'entrelacs, c'est typique du broderie, des tissus, des choses qui. Une ligne qui se tisse, qui se croise, ou les bijoux dans lesquels la technique du cloisonné, des choses extrêmement précieuses. Et donc, et là, eux, au lieu de garder essentiellement l'image du Dieu, ce qu'ils vont surtout garder, c'est la parole. C'est la parole, le verbe, et donc l'écriture. Et donc, en tant que moines, copistes, ils vont d'abord garder les textes, les recopier, et surtout, autour de l'écriture, densifier l'écriture pour en faire une œuvre d'art qui dépasse la simple forme de la lettre. De la manière que, si vous voulez, il faut dépasser la figure pour aller jusqu'au Dieu, il faut dépasser l'hostie pour aller jusqu'au Dieu, il faut dépasser la lettre pour aller jusqu'au Dieu. C'est-à-dire que tout à coup, on a un objet simple, il faut en même temps lui donner une densité divine. Alors, la densité divine, ça va être justement l'idée de l'infini et de quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, à la fois, vous avez la lettre, quelque part, on reconnaît plus ou moins la lettre capitale ou majuscule, donc majuscule donc, qui est très grande, capitale qui est en tête, et dans lequel, par contre, effectivement, alors attendez, je zoome un petit peu, il va y avoir des petits personnages, parfois, des petits personnages, mais ils sont contenus dans la parole divine. Ils sont perdus là-dedans. Ils dominent rien. Ils sont emportés par cette espèce de monde absolument merveilleux. Alors, ces livres sur parchemin, alors, d'abord, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, quand ils ont un parchemin, une feuille en cuir très fine, c'est du vélum souvent, on ne va pas la gâcher. Donc, on va aussi densifier, puisqu'on n'a pas beaucoup de pages. Donc, sur une page, on va mettre un maximum de choses. Donc, il faut aller vers la miniature, l'entrelacs, les choses précieuses, on va utiliser de l'or, etc. Et quelque chose d'une carrément de merveilleux, comme on peut le voir ici. Alors, les lettres elles-mêmes se fondent dedans. Alors, ça, ce sont en gros les débuts des textes. Ensuite, vous avez le texte lui-même. Alors, le Book of Kells, voilà ce qu'il en reste. Vous avez effectivement une figure, et là, vous voyez à chaque fois une figure divine, mais qui tient un texte, qui tient un livre. Cette idée aussi très importante. On est très très loin de la représentation, alors, romaine ou latine. Cette fois-ci, on est dans des figures très simplifiées. On voit bien d'ailleurs que le corps lui-même est très relativisé par rapport à la parole, et par rapport à l'espace réel, et entouré de cette dimension symbolique où il faut combiner, c'est là qui est typique de cet art irlandais, il faut combiner à la fois l'ordre et en même temps une sorte de désordre. Mais le désordre de l'entrelacs, il est cadré au sens strict par des formes géométriques. C'est-à-dire que vous pouvez, parce que c'est un truc tout bête, mais ces personnes-là pensent que le monde est bien ordonné et bien fini, mais que ce monde ordonné est fini, il a été créé par Dieu, donc il est ordonné et fini, mais en même temps, il est achevé, mais en même temps, les humains ne le comprennent pas en entier. Donc on ne peut pas tout montrer. Donc il faut se perdre dans un monde fini. La meilleure manière de se perdre dans un monde fini, par exemple, c'est l'entrelacs. Moi, je ne sais pas si vous êtes doué mais là-dessus, mais essayer de se repérer, de reproduire soi-même un entrelacs, c'est horrible. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se perd très vite, parce qu'on perd le fil au sens strict. Et donc, vous avez cette idée absolument merveilleuse, justement, c'est que c'est à la fois parfaitement cadré, et en même temps, on se perd dans quelque chose de parfaitement fini. Et ça, c'est ce côté, justement, de densité, puisque, au sens strict, c'est cette densité. Alors, on voit des formes géométriques simples, le cercle, le triangle, le carré, donc presque symbolique, et à l'intérieur, eh bien, des chemins infinis, au sens presque strict, mais le corps relativisé, mis à plat, il n'y a plus d'effet d'ombre et de lumière, on n'est plus dans un espace réel, on est dans un espace purement sacré. Alors, cette espèce de fantaisie celtique, c'est un peu le cas, on l'a dans le Book of Kells, voilà, Alors, ce qui est beau, c'est cette idée-là de l'image et de l'infini. Et en même temps, quand ils se mettent à écrire, tout d'un coup, le texte, quand même, il va être clair. C'est-à-dire que vous avez une calligraphie, des polices de caractère qui sont très belles, presque plus lisibles que l'écriture gothique plus tardive. Hein, ce qu'on appellera ensuite la caroline, etc., qui est plus ronde, hein, une écriture latine caroline, est quasiment carrément lisible. Chose assez drôle aussi, c'est que non seulement il préserve la tradition chrétienne, mais il préserve aussi le latin. Et donc, les moines irlandais vont être presque les seuls à savoir encore bien le latin, des textes qu'ils vont garder dans leur monastère, qui seront à se préserver. Donc, ça va devenir des intellectuels de référence. Et eux, à la différence justement de ce qui se passe du côté de Byzance, les moines irlandais, eux, sont très loin du pouvoir. C'est vraiment, on va dire, des intellectuels purs. Des personnages qui sont dans leur monde, ils n'ont pas de richesse, pas de pouvoir, mais ils vont avoir une influence progressive très importante parce que ils connaissent les choses, eux. Et ils ne sont pas dans les légendes, il y a quelques légendes, mais en gros, ils ont les vrais textes, ils sont loin du pouvoir, donc on va dire que c'est des intellectuels purs. Et ils vont avoir une influence, on va voir, sur Charlemagne et sur, y compris, les moines asturiens. C'est-à-dire que les moines irlandais vont reprendre le chemin de la mer, le chemin des routes, vont traverser la Manche, vont traverser, etc., vont revenir en Petite-Bretagne, vont arriver, vont arpenter un petit peu tout l'Empire romain, totalement morcelé, en plein chahut et bazar, et vont apporter toute une doxa chrétienne très intéressante, et souvent cultivée, parce qu'ils ont plein de manuscrits, ils ont gardé des manuscrits, ils ont gardé des textes. Alors, on voit, c'est là où c'est assez marrant, on voit quand même que le culte à Marie, lui, il est presque... Alors regardez Jésus, il y a ses un vrai hippie, Marie, etc. Avec
des petites moustaches.
Ouais, des petites moustaches, ou sa bouche. Et puis vous avez quand même les anges ou les évangélistes. Mais alors là, une multiplicité, les couleurs sont absolument splendides. Alors c'est peut-être un peu saturé au niveau de la reproduction, mais quand même. Alors là, on voit, hein, c'est que vous avez Marie, l'air de rien, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, le culte à Marie reste très important. Alors, comme il est l'heure, je finis juste pour vous présenter le Book of Kells. Vous avez le diable ici, on verra plus tard le diable. Quelques détails. Voilà. Juste une chose, et puis je verrai la prochaine fois, c'est que ce n'est pas le seul manuscrit. Hein, vous avez aussi le livre de Durow qu'on verra plus tard. Hein, qui est absolument somptueux, ce qu'on appelle les manuscrits celtiques ou nordiques, le livre de Lindisfarne, qui lui aussi est absolument sublime dans le principe des manuscrits et de l'écriture. Et juste voilà justement le type d'abbaye, alors ça c'est Lindisfarne, c'est au nord de l'Écosse, c'est plus l'Irlande. Et bon, des bâtiments qui sont un peu plus récents et modernes, mais là on est effectivement très loin des villes. Et des cités orientales de Byzance, Constantinople, Rome, Marseille, etc., et tel qu'on pouvait le voir. Donc c'est deux esprits différents. Alors autour de ça, on verra les manuscrits, on verra aussi les manuscrits carolingiens, le rapport avec Charlemagne, avec aussi tout un symbolisme de l'écriture. On verra aussi les entrelacs et les labyrinthes, et on verra quelques variations contemporaines. Comment sont les manuscrits méditerranéens à la même époque, pour voir les énormes différences. Donc, si vous voulez les regarder, on peut les retrouver.
Les trucs asturiens, tu les confonds avec méditerranéens ou pas ?
Non, justement. Ils seront encore autre chose.
Atlantique.
Atlantique, mais justement. C'est, en gros, il y a trois grands pôles.
Oui.
Irlandais, orientaux et asturien, et puis tout ça progressivement, ça va fusionner pour faire en gros l'art chrétien médiéval, gothique, renaissance, en gros. C'est vraiment des influences complexes. Et...
Par contre, comment ils se fournissaient en couleurs ces gens-là qui vivaient dans un état de misère extraordinaire ?
Ils n'étaient pas forcément misères. Les couleurs, de toute façon, il y a toute la tradition des tissus, hein, qui connaissaient déjà les teintures. Vikings, les cultures nordiques, celtiques, c'est une vieille tradition. Donc je pense que.
Ils étaient quand même vachement pourchassés par les Saxons. Ils vivaient dans des.
Mais ils vont les christianiser aussi, les Saxons.
Je sais pas, les moines irlandais, quand tu
Alors, avec les Vikings, ça s'est effrité, mais au bout du compte, les Vikings sont devenus normands, qui sont devenus... Donc, effectivement, eux aussi, ils vont christianiser les Saxons. De la même manière que Galla Placidia christianisait les Visigoths, eux, ils vont progressivement christianiser les Saxons, etc. Toute l'histoire des chevaliers de la Table Ronde, c'est l'histoire de la christianisation des Saxons. Merlin, qui est en plus un païen, il se mélange avec la tradition chrétienne, et c'est assez bizarre, d'ailleurs. C'est assez rigolo, comment est-ce que les chevaliers de la Table Ronde, ça combine des traditions celtiques presque païennes avec des traditions chrétiennes. Mais les plus vieilles traditions des chevaliers de la Table Ronde, ça date du 5e siècle, on appelle la matière de Bretagne, les Mabinogions, etc. Et puis progressivement jusqu'à Chrétien de Troyes au 13e siècle, qui finit par tout christianiser l'histoire des chevaliers de la Table Ronde, mais il garde quand même Merlin, la magie, les fées, etc. Mais l'idée, c'est que cette chevalerie un peu barbare, il faut lui donner des règles et l'amener vers le christianisme. Et ça dure pendant plusieurs siècles. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est assez rigolo.
Le temps.
Oui.